c'est la bande originale. Tanguy Bassureau, Daniel Morin et notre invité Philippe Gian.
C'est pas la première fois.
Yes, c'est la première fois.
Si je ne m'abuse, mec, je ne sais même plus qui est.
Si,
c'est la première fois que nous avons la chance d'avoir Philippe Gian en invité. Évidemment, parolier, mais romancier de nouvelles, de scénarios de films. Enfin bon, bref, une carrière absolument incroyable, très très riche, très très dense, que l'on évoquera avec lui, dont surtout son dernier roman, Double Nelson, d'où
Daniel.
Oui.
Ah, c'est Nelson.
Captain of the Heart.
Exactement, mais comment s'appelle le groupe ?
Pas du tout.
Nelson's ?
Non.
De Mandela's.
Mandela's.
Non plus. Oh. Donc t'as la bonne réponse, hein, Daniel.
Les gens qui font un peu de flûte.
Double !
Ah, Double !
Il s'appelle Double !
J'adore ce jeu.
Oh là 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 là, Double.
Titre. Tu sais, tu dois trouver le même, la même image sur un rond.
Ah oui, c'est vrai, Double, j'adore ce jeu aussi.
Trop bien.
T'as raison. Et qui chante ?
Tanguy. Daniel.
Oh là, c'est pas Tanguy.
Tanguy. Ouais, Tanguy.
Ah,
Tanguy.
Serge Gainsbourg.
Bah ouais.
Elle avait de l'amour. Pauvre. Mélodie Nelson.
Donc il y a eu double.
Il y a double et il y a Nelson.
Et Nelson.
Il va y avoir Gian. C'est Blind Test ? Ok, d'accord, j'ai pas compris.
Jérémy. Tanguy.
Jérémy.
Gian.
Blur.
Blur, oui. Tanguy.
Quoi ? Bah, j'ai tenté tout le titre, quoi.
Ah. Parce que Sanctu, il y a deux. Et puis alors des sons, il y en a dans le livre aussi. Hein. Il y a une véritable BO dans le livre de Philippe Gian. Attention,
Morgan.
Ah, oui.
Spin Doctors.
Joli. Okay. Quelle vitesse.
Mais ça va vite là.
Spin, un petit truc de batterie.
Ah, ils disent vraiment des paroles.
Non.
Je pensais qu'ils faisaient. Ah non.
Mais j'ai dit ça.
Qu'est-ce que c'était bien ça.
J'ai le cœur grand la ville.
Eh, je fais n'oubliez pas les paroles de Spin Doctor, tu viens quoi. Après.
Mais sur cette chanson.
Ils en ont fait qu'une en même temps.
Non mais uniquement là-dessus, t'as reconnu
Spin Doctor.
Bah ouais, Spin mais le nom.
Moi j'aurais dit régiment numéro 3 de l'armée. Fabrice.
Tanguy.
Oui, Tanguy.
Just
Two of
Us.
Marvin.
C'est un petit caprice.
C'est pas Marvin.
Florence.
Non, c'est pas moi.
Mais par contre, c'est qui?
Grover Washington Jr. Il y a plein de versions différentes.
Oui, c'est vrai, j'ai jamais su le nom.
Non.
Attention, qui chante?
Tanguy.
Oui.
Prince.
Oui. Quel rapport?
Est-ce que je peux en avoir?
Je sais pas du tout.
Ah ben Prince, à mon avis, ils sont bien deux dans sa tête, non
enfin, ils étaient.
Ils étaient.
Ils sont tous morts en même temps, d'ailleurs.
Son vrai nom, c'est Nelson.
Ah oui, c'est vrai.
Ah mais oui.
Oui.
Ah, comme Nelson Montfort. Et il a fait Mandela.
Oui, mais en mieux.
Ouais, il avait changé. Oh. Il avait encore changé de pseudo après. Il avait pris The Artist.
Ouais, c'est vrai.
Love Symbol.
Love Symbol.
Et Jacques.
3 points pour Tanguy, 1 pour Daniel, 1 pour Morgan, 1 pour Jérémy. C'est...
Okay, je j'en ai pas moi.
Si.
Il y a deux Tanguy.
Moi j'en ai pas non plus.
Je crois que j'ai.
Non, toi t'en as pas. Mais si,
j'ai fait un bluff moi.
Si, il a.
Non,
oui, il a bluffé.
Si, tu... Ah bon ?
J'ai bluffé sur Blur.
Bah c'était la bonne réponse.
Non,
je crois que c'est Tanguy qui a dit Blur.
Ah, c'est vrai. Ok, d'accord. Ok, c'est honnête. D'autant que.
C'est trop honnête.
Tout se joue à 5 points. Qui interprète ?
Daniel ?
Francis Cabrel.
Cabrel, ouais, j'allais dire Cabrel.
Non, c'est américain. Le Ding-Ding-Ding. Voilà.
Renault.
Non.
Le cœur devient.
Mais là, ouais, Stéphane Echer.
Joli.
Oh, c'est un
et
vol.
Pourquoi ce titre?
Parce que
c'est la valse Gian Valls.
Oh, chic.
La classe.
Attends, est-ce que j'ai gagné là-dessus?
Ouais, j'ai l'impression.
C'est une belle victoire.
Encore un hold-up de l'académie.
Je crois que c'est la première fois que je fais un contre-pied comme ça. C'est-à-dire tout un blind test sur un. Hop, hey, hop.
Crac.
Ah, donc quand la on marque total... sur la dernière réponse, c'est.
Oui, c'est le super banco.
Ça
fait 3 semaines que t'es là.
Victoire de Leila Gadourani, Monsieur Philippe Gian est notre invité.
La bande originale avec Nagui.
Bienvenue Philippe pour cette première fois avec nous, on est ravis de vous accueillir.
Merci pour cet accueil.
Parce que s'il y a un titre d'émission, je ne parle pas de la qualité, je parle juste du nom de l'émission qui va bien avec votre œuvre en général, c'est bande originale. Parce qu'il y a une véritable bande originale dans votre livre aussi, beaucoup de musiques sont présentes. qui sont vos goûts personnels, parce que c'est le cas aussi des auteurs et des livres que vous citez.
Il y a un truc très drôle, il y a un type qui écrit dans un blog depuis quelques années, là. Alors c'est pas lui qui tient le blog, mais il a des commentaires comme ça, puis ça fait 3-4 ans qu'il me tombe dessus et qu'il me massacre à chaque fois. Et ça devient presque sympathique, mais
c'est
marrant.
C'est attachant.
Sauf que le dernier bouquin, il dit, bon, son bouquin il est naze, mais alors putain, la bande son dedans, elle, c'est une tuerie.
C'est quand même fou.
Je dis, bah voilà.
Le mec, il lit jusqu'au bout, mais de suivre tout.
Oui, c'est ça.
Bah, il le lit en entier.
Il a pas de vie en même temps.
C'est ce qu'on appelle un vrai fan, en fait.
Bah, faut qu'il aille au fond de la chose pour me faire mal.
Comme quoi, c'est bien fait.
C'est ce que j'ai dit hier soir.
Et il y a peut-être.
Je dormais déjà.
Un personnage comme ça dans votre livre, Hérotomane, c'est une forme de danger aussi. Michel, elle est quand même dangereuse parce que elle est amoureuse, croyant, pensant vis-à-vis d'un auteur justement, puisque l'un des héros, on va dire qu'il y en a quatre quand même personnages principaux dans le livre, mais surtout un qui est un auteur, Luc face à Marc.
Ouais.
D'ailleurs, tiens, Luc, Marc, Edith, hein. Michel, est-ce que les prénoms sont importants pour un auteur?
Visiblement, le choix,
c'est à la fois super important parce que c'est comme des coquilles vides, un prénom. Soit vous arrivez à mettre quelque chose dedans, mais si le truc, il y a déjà des machins qui sont... Par exemple, j'arrive pas à avoir un personnage féminin qui s'appelle Morissette, par exemple. Ah. Ça me bloque.
C'est trop daté.
Non, je sais même pas ce que c'est. Je peux pas.
Je sais pas
quoi mettre dedans.
Et donc, vous voudriez?
Je ne sais pas comment dans Morissette.
Non, parce qu'à l'oreille, c'est pas terrible, Morissette.
Tout va bien, alors.
Philippe, si le roman s'appelle Je ne sais pas comment dans Morissette, ça peut être un style aussi.
On ne sait jamais. Peut-être.
Ça ouvre des perspectives.
Non, mais les prénoms, c'est un truc. C'est pour ça qu'il n'y en a pas beaucoup et qu'on me dit, mais c'est parce qu'il y a un truc caché là-dedans. Il y a un prénom, le Henri ou le Dan qui suit. Non. Parce que j'en ai pas beaucoup et que je me resserre, quoi, en fait.
Mais Luc, Marc, on est dans...
Ça me dit rien, mais Luc, Marc, je peux mettre plein de trucs dedans.
Dans l'Évangile, ouais. On est dans...
Ah oui, c'est ça. Pierre, ouais, Paul, il y a Paul aussi. Je sais.
Il y a Judas.
Il n'y a pas Jean. Il n'y a pas de Jean là-dedans.
L'Évangile de Judas.
Ce double Nelson, est-ce que c'est une mise en abîme d'une vie d'auteur pour vous? Est-ce que c'est une folle histoire, enfin deux folles histoires d'amour, parce que de chaque côté de la rue, il se passe des choses? Ou est-ce que c'est une manière aussi de montrer que ce sont les femmes qui décide de tout et qui dirige les histoires des deux autres?
Elle décide pas de tout parce qu'il y a cette fameuse prise. Elles peuvent être prises par un double Nelson, donc elles n'ont pas tout le temps. Mais moi, j'adore les femmes, donc c'est. Mais pas quand je dis ça, c'est pas un homme qui dit j'aime les femmes. J'aime les femmes d'une manière mentale, intellectuelle. J'aime bien leur résistance. J'aime bien la manière dont elles se débrouillent. J'aime bien la manière dont elle nous emmerde aussi, parce que sinon la vie serait triste.
Mais c'est réciproque, ça tombe bien. Ouais.
Pardon ?
C'est tellement réciproque que
c'est
ça tombe bien.
Et ben voilà, c'est comme ça.
Ça, c'est de la parité.
Ouais. Voilà.
Et le point de départ de ce... Alors, ce roman, il faut faire attention aussi à ce que l'on peut dire et ne pas dire, parce que ça reste aussi un thriller, il y a un suspense quand même. Bah si, quand même.
Mourir, hein,
non. On va pas gâcher non plus. il y a cette rencontre un peu, on va dire, physique, musclée, entre une femme et un homme, qui est cette femme fait partie de brigade,
de force spéciale,
et elle se trompe en fait de cible, d'où cette rencontre qui débouche sur une histoire d'amour mouvementée, musclée, et puis un post-it rose un jour qui est déposé par cet homme en disant bah écoute, ça on va s'arrêter là parce que ça va pas être possible, je suis auteur, je suis romancier, ça me bloque dans mon travail, je ne peux pas vivre avec toi ou avec elle, et donc il finit par lui balancer toutes ses affaires de sport, de boxe et de muscu dans la rue sous une bâche qui disparaissent en une nuit. D'ailleurs, ça le fait chier parce qu'il se dit mais elle a même pas envoyé un texto, elle a rien.
Ça me fait rire moi-même, c'est ça qui est bien quand j'entends ça.
Et mais c'est le point de départ et on ne sait pas trop d'ailleurs si l'équilibre de cet auteur, de ce romancier, est dans le conflit avec cet envoyé des forces spéciales ou au contraire dans la solitude du romancier face à son écran.
Il y a tellement de questions dans ce que vous me dites là, mais ce qui était amusant pour moi, c'était aussi cette idée de commencer un roman pas par la fin, mais que la rencontre avec qu'on connaît, qu'on a lu 50 millions de fois, ou la rencontre, et puis on s'aime, et puis c'est super, et puis peut-être après ça va se... Moi je me suis dit, j'ai envie de passer par tout ça, parce que ce qui était intéressant, c'était de les remettre ensemble avec tout le passé qu'ils avaient. Mmh. Donc on arrêtait le truc, mon amour, je le regarde avec des grands yeux et tout ça. Non, ils se connaissent bien, ils font attention et ils savent qu'ils sont encore attachés. Mais comment ils vont...
Attirés même plus qu'attachés.
Oui, hein, oui. C'est... Oui. Oui, ok. Attirés. Je pense qu'ils sont assez liés parce que pour moi...
Bah, quand on fait l'amour sans s'embrasser, on est plus dans l'attirance.
Quelle liberté.
C'est parce que les règles qui fixent pour...
Ah, faut s'embrasser.
Je pouvais difficilement mettre deux personnages qui avaient eu une vie amoureuse intense au départ et qui acceptaient de renouer éventuellement une espèce de cohabitation. Bah, je pouvais difficilement ne pas passer par une espèce d'attirance qui allait forcément, même sexuelle et physique, qui allait se remettre en place. Sauf que, comme ils sont pas idiots, ils savaient que ça allait être dangereux. Donc ils disent, OK, on s'embrasse, mais sans la langue.
C'est ça.
Et moi, je meurs de rire quand j'écris ça. C'est une comédie, et j'arrête pas de le dire. Tous les écrivains ne sont pas des gens investis Auster. Par le Seigneur. On écrit des comédies, parce que nos vies sont tragi-comiques.
Mais vous aviez envie quand même qu'il y ait une forme de suspense, de thriller, d'enquête, d'investigation.
Oui. Ouais. Enfin, d'enquête, je fais jamais d'enquête, mais j'ai pas le temps. Ça
non, mais c'est ce que elle fait, en tout cas.
Oui. Mais par exemple, sur les forces spéciales, j'ai su qu'il y a quelqu'un qui allait venir pour nous en parler.
Exactement.
Je vais me mettre sous le bureau en disant, mais j'y connais rien dans les forces spéciales. Simplement, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, je lis un article et tout le monde sait qu'évidemment que la vie dans les commandos, ça ne va pas être simple. Et il y a des femmes qui, d'un seul coup, ont accès si elles passent les tests. Et il paraît que cette femme en question, qui a été une des premières à être admise dans les forces spéciales, les types avec qui elle avait fait ses tests de résistance et tout ça avaient la mâchoire qui se décrochait en disant « Incroyable, évidemment qu'il y a un bras de fer, on va gagner le bras de fer. » Mais ils disaient que le mental de cette femme était supérieur au leur. Quoi. Et ça, c'est génial de montrer qu'à un moment, il n'y a pas que la force physique qui compte.
Double Nelson, le nouveau Philippe Jean, c'est bien, ça devient un nom commun, le nouveau Philippe Jean, le Philippe Jean annuel, parce qu'il y a un rythme et une qualité de travail qui est assez, qui est même très impressionnante. Nous sommes impressionnés, nous sommes ravis, c'est pas le cas de tout le monde, voici Morgane Cadignan.
Allez.
Et Morgane ne vous aime pas, Philippe.
Ah, c'est génial, moi j'aime bien les gens qui ne m'aiment pas, parce que j'essaie de les reconquérir.
C'est elle qui tient le blog.
Philippe Jean, je vous aime pas, mais... quand même un peu, parce que grâce à vous, j'ai appris que Double Nelson n'était pas seulement un titre de roman, mais également une prise de catch qui consiste à faire abandonner son adversaire. C'est fascinant. Le nombre de fois où je me suis fait double Nelsonner la gueule sans savoir que ça avait un nom, quoi. Tu sais, quand ton mec fait un petit peu exprès de mal plier le linge pour que tu finisses par dire, non, bah, laisse, je vais le faire. Du coup, bam! Double Nelson, abandon par charge mentale. Bien joué. En 68, Philippe, vous partez aux États-Unis sur les traces du héros de l'attrape-cœur de Salinger. Quelqu'un aurait pu vous prévenir avant le départ qu'il n'existait pas. Moi aussi, j'ai couru après des personnages de fiction. Après, je peux être très très insistante, donc Dorian Gray a quand même pris vie pour me demander d'arrêter de le suivre dans les rues. Voilà, bon, soit tu fais canipocane, soit tu fais des blagues, hein, finalement. Vous racontez également avoir loupé un avion pour la Colombie à cause d'une panne de réveil, et l'avion s'est écrasé. Vous imaginez rater un crash parce que t'es une feignasse, quoi. On dit que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Et bah pas là. Voilà. Parfois les dictons nous mentent. Je suis désolée. C'est triste, mais c'est comme ça. Parfois il y a des pierres qui roulent et qui amassent quand même un peu de mousse. On ne peut rien y faire. Mais je m'en remets pas de ce coup du destin échappé à un crash à cause d'une panne de réveil. Moi je suis là comme une conne à me lever le matin, à avoir peur d'être en retard. Alors que si ça se trouve c'est le destin qui veut pas que je vienne ici. C'est l'univers qui tente de sauver ma carrière. Ouais. J'ai quand même quelques chroniques qui se rapprochent du crash aérien. Franchement, en un an et demi, voilà, j'ai fait 2-3 vannes pendant lesquelles je voyais Nagui et Leïla sortir le masque à oxygène pour aller glisser sur le toboggan du malaise. En 82, vous publiez votre premier roman, Bleu comme l'enfer. Bon, c'est un petit peu dur pour cette couleur, regardez autour de vous, il est pas bleu l'enfer, il est clairement rouge et noir. Le bleu, c'est plutôt cool quand c'est partout ailleurs que dans les cheveux de Léa Seydoux. Moi, j'aime bien. Bleu comme l'enfer, c'est le premier livre que j'ai lu de vous. C'est un récit qui mélange fuite, violence, drogue et sexe. À la fois un bon week-end et la biographie de Daniel Morin. Et là, je continue votre biographie à vous. Et coup de théâtre, on croit connaître les gens. En 89, vous devenez le parolier de Stéphane Escher. Et c'est à vous, Philippe, qu'on doit déjeuner en paix. Une chanson à cause de laquelle on n'a jamais pu redéjeuner en paix, puisqu'à chaque fois qu'on voulait déjeuner en paix, quelqu'un se mettait à chanter déjeuner en paix, puis on passait la journée avec déjeuner en paix dans la tête, jusqu'au dîner, qui est un repas sympa, jusqu'à ce que Benabar vienne nous le foutre en l'air aussi, quoi. Donc, Philippe, au final, je vous aime bien, parce que vous êtes un romancier avec une vie de héros de roman, et maintenant, à chaque fois que je me lèverai pas le matin et qu'on menacera de me virer, je répondrai, bah ouais, j'ai loupé mon réveil, mais Philippe Jean est vivant, donc laissez-moi dormir en paix.
Merci, Morgane.
Qu'elle voulait, si je le permettais, déjeuner en paix.
Salut au passage l'ami Antoine Decaune, qui est à l'origine de cette amitié de combien d'années maintenant entre Stéphane Escher et vous? Ça fait 30 ans?
Même peut-être plus que ça, peut-être 35 je dirais, allez, soyons larges.
Amitié qui vous pousse même à déménager, parce que c'est lui qui vous a convaincu d'aller vivre à Lausanne.
Ouais, c'est Antoine Decaune qui me disait, mais parce qu'à un moment je lui disais, mais je comprends pas pourquoi les écrivains sont tous à Paris dans des restaurants que tout le monde connaît, c'est pas très drôle. Alors que moi, dès que j'ai commencé à gagner de l'argent un petit peu avec mes livres, bah, j'ai voulu voir le monde que je ne connaissais pas.
C'est la liberté d'un auteur en plus de pouvoir travailler d'où il veut.
Bah, et ça, c'est incroyable. Ouais. Je n'ose pas en parler parce que je vais passer pour un privilégié.
Je
suis un privilégié.
C'est bien.
J'ai gagné ce privilège.
C'est ça, exactement. En plus, vous n'enlevez rien à personne, donc je ne vois pas où est le problème. Et vivre en Suisse, c'était comment?
En Suisse?
Ouais.
C'était très cadré. non, mais je plaisante parce que vivre en Suisse, tous les endroits où j'ai habité, j'ai jamais eu non plus des rapports particuliers avec les Suisses, avec les Américains, avec les Italiens et tout ça. Je rencontre toujours des gens qui sont un peu dans ma sphère d'activité. Et c'est les Suisses un peu particuliers, les Suisses qui écrivent des bouquins sympas, il n'y en a pas des kilos. Donc, mais je connais pas le Suisse qui est derrière son rideau.
Pardon, je reformule la question parce que le climat. Je trouve que le soleil est très présent.
Je rigole d'avance, mais bon. Je rigole parce que vous savez qu'il y a Nick Apriélion des Un Rock et qui avait dit avec Jean au moins ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas besoin de regarder la météo. Il nous la donne à chaque page.
Oui, mais
rire, mais en même temps, je pourrais vous expliquer pourquoi.
Je ne sais pas si c'est un compliment sous sa plume, mais en tout cas, les rayons de soleil, les soleils couchants, on a encore aussi les images de 37.2, l'importance du soleil, la nature, la vie. Justement, je me dis que. Et l'océan, qui est présent aussi dans votre roman, ça fait beaucoup de choses. La pluie, oui, elle peut être présente en Suisse, mais soleil et océan, c'est pas vraiment le cadre le plus suisse. Et tant qu'à être libre d'aller où on veut sur cette planète, pourquoi ne pas aller plus vers le soleil et l'océan que vous semblez aimer?
Ouais, parce que d'un seul coup, on me met entre les pattes un Suisse. Qu'est-ce que je voulais que je fasse? Fallait bien que je m'adapte. Donc, je me suis adapté. Et par exemple, les reflets de la journée qui passent sur le lac, je peux vous assurer que c'est super.
Ouais, ça va être joli aussi, ouais. Ok.
Il fallait écrire pour Franck et Vincent, comme ça vous seriez parti.
La musique est très présente dans votre roman et souvent d'ailleurs, elle est présente, elle est importante dans votre vie.
Comme quoi, même avec un AVC, on peut faire des bons trucs.
Parlez-nous de cette musique. Elle est importante.
Ça, c'est un truc particulier. C'est un espèce de groupe russe, on n'est plus en Suisse là. C'est des Russes qui ont mis ça en place et qui ont fait un film qui est génial. Que chaque fois qu'il y a des gens nouveaux qui arrivent chez moi, je leur mets l'étau. Parce que c'est l'histoire d'un groupe qui se met en place et avec des standards qu'on connaît tous, mais qui sont réadaptés. Et c'est génial, des trucs de hip-hop, des trucs. Et puis je sais pas. Enfin, ça va pas m'accompagner jusqu'à ma mort, sauf si je meurs demain. Mais je veux dire, bon, c'est bien. Il y a d'autres trucs qui se passent. Mais j'aime beaucoup et particulièrement ce film et cette image de ce groupe qui se met en place et comment les gens vivent ensemble, comment ils font de la musique ensemble, comment ils arrivent à vivre ensemble. Enfin bon, bref.
La musique est présente dans des citations dans votre livre. Est-ce que vous travaillez en musique? Est-ce que pour vous, l'écriture est une musique?
Alors oui, pour la dernière remarque, oui, la vie et l'écriture et tout ça, c'est une musique pour moi, mais je n'écris pas en écoutant de la musique.
Parce que le rythme de vos phrases, la brièveté des phrases par moments sans verbe, c'est un tempo que vous vous donnez.
J'ai jamais remarqué que j'écrivais des phrases sans verbe. Mais tiens, il faudra que je fasse gaffe quand même. Parce que,
si, j'en ai.
C'est bien quand. Non, mais peut-être.
Non, mais
peut-être.
Vous mêlez en tout cas les dialogues au corps du récit.
Il y a des moments où c'est ça, des punchlines.
On est parti pour des heures.
Ça, c'est intéressant parce que c'est aussi votre marque de fabrique. C'est-à-dire que tout d'un coup, vous donnez à entendre dans le corps de la narration les personnages, ce qui peut créer un effet un peu déroutant au départ, mais qui fait qu'on entend toutes ces voix qui jaillissent ensemble. Et c'est un peu comme les différentes pistes d'une chanson.
Je n'irai pas jusque-là, mais c'est une manière de... Mon travail porte plus sur la langue. Mm-hmm. Pourquoi ? Parce que je trouve que toutes les histoires ont été plus ou moins écrites et que depuis Shakespeare, on ne renouvelle pas trop. Les scènes qu'on connaît, elles recommencent à chaque fois. Il y a simplement la manière de les regarder différemment. Mmh. Et ça, ça veut dire faire un pas de côté pour regarder la même chose que tout le monde, mais d'une manière différente.
Et c'est pour ça que vous
ce
mêlez...
changement d'angle et de cadre, c'est la langue qui le donne, et rien d'autre.
Et ça passe aussi par le fait de mêler comme ça les dialogues dans la totalité.
Oui, parce que je trouve que se servir de la typographie, comme l'italique, les guillemets, les machins, les points d'honneur, c'est une faiblesse de l'écrivain, qui n'a pas trouvé le moyen de... Quand on met, par exemple, « Où est-il ?», ils se sont obligés de mettre un point d'interrogation, alors qu'il y a déjà l'inversion verbe-sujet. Donc, alors que si vous enlevez le point d'interrogation et que vous mettez un point dans votre lecture mentale, c'est plus « Où est-il ?» qui attend une réponse, c'est « Où est-il ?» Et il y a des questions qui n'amènent pas de réponse. Ouais. Le point d'interrogation, à ce moment-là, m'emmerde. Donc je me suis dit « Je ne veux plus de point d'interrogation. Est-ce que j'ai besoin de mettre un point d'exclamation ?» Pour faire, vous avez vu la phrase ? Non, c'est pas la peine. Est-ce que j'ai besoin d'écrire comme Vygotsky, que j'adore et que j'adorais à l'époque parce que j'écrivais comme lui en faisant des mots avec des grandes lettres bâtons ? Non, c'est une faiblesse. Est-ce que j'essaie d'éliminer tout ce qui m'emmerde.
Mais ça permet aussi de jouer au doute et à la confusion quand on ne sait plus d'ailleurs qui a dit quelle phrase. On le comprend très rapidement derrière, mais ça laisse planer cette forme de doute aussi.
J'aime bien, moi, que ce soit un peu, qu'il y ait un petit effort à faire. On n'a pas l'impression que dans le genre de livre que j'écris, je demande au lecteur d'être très attentif. C'est pas le genre de roman, mais oui, moi je vous demande d'être très attentif.
Ouais, ouais. Et de pouvoir aussi se dire qu'il est arrivé quelque chose, ou en tout cas parler d'une blessure et qu'on ne le comprenne qu'après aussi. C'est comme une forme de... Ouais.
Mais vous rencontrez quelqu'un qui vous paraît sympathique, d'un seul coup vous n'allez pas dire, mais je voudrais bien savoir si vous avez été opéré de l'appendicite, si vous êtes malade, si vous êtes amoureux, si... On va découvrir ça tout doucement. Et c'est pour ça que ce qui est intéressant quand on met des personnages en place, c'est que la première rencontre, souvent on se trompe. Des gens vous paraissent au premier abord antipathiques et vous allez vous rendre compte qu'en parlant un peu avec eux, comme avec ma voisine, là,
Morgane,
qui m'a paru tout de suite très antipathique, parce qu'elle a essayé de me démolir, mais d'un seul coup, je sens qu'elle me sourit gentiment. Donc ça va bien, ça change.
On rachète.
Non, mais elle est payée pour ça.
J'espère bien.
Non, c'est parce qu'elle a faim, là.
Ah bon, il y a faim. Il faut encore que je m'attende au film.
Et c'est le cas de vos personnages aussi, c'est-à-dire qu'ils évoluent, qu'on apprend à les connaître, mais aussi, c'est une manière pour eux, enfin, c'est le sentiment que l'on a dans la situation dans laquelle ils se trouvent, de se découvrir eux-mêmes dans des situations de plus en plus dingues.
Mais, oui, mais moi aussi. Je le découvre aussi, parce que moi, quand j'écris, je sais pas de quoi ça va parler. C'est la première phrase qui démarre. Je sais pas qui est qui fait quoi. Est-ce que c'est un homme qui parle, une femme? Et j'avance tout doucement, parce que je suis comme vous, le lecteur, je découvre en même temps. Sauf que je suis obligé de les écrire, moi. Mais sinon, je fais la même attitude. J'essaye de comprendre ces gens-là qui me... J'aime bien qu'on me mette pas un espèce de bloc psychologique pour que je comprenne d'entrée ce qui se passe dans la tête de quelqu'un. Mmh. Et parce que c'est complètement absurde.
Ce sont les personnages qui vous embarquent alors, c'est eux qui vous dirigent.
Oui, mais c'est la langue surtout, hein. C'est pas vraiment le personnage. C'est la première langue, la première phrase qui me donne à la fois le rythme, la coloration, la mélodie, qui me donne plein de choses, plein de choses qui vont me servir après. Donc je suis très attentif à ce que j'écris, et je regarde comment une phrase éventuellement en amène une autre ou pas. Par exemple, on peut regarder « Le ciel est bleu ». Si je vous écris « Le ciel est bleu », vous allez pas dire « Mais il est génial, ce mec, vous avez vu ce qu'il a écrit ?»
Avec un point d'interrogation.
C'est super. Non. C'est pas terrible. Sauf que si vous avez travaillé la phrase qui précède, vous pouvez dire le ciel est bleu parce que vous allez en mettre une autre après qui va peut-être en amener une autre. Donc d'un seul coup, cette espèce d'insert au milieu peut devenir hyper intéressant et peut être très poétique en même temps.
Et au-delà du rythme des phrases, est-ce que le choix des mots aussi ont une musique, une sonorité? Est-ce que vous avez un gueuloir? Est-ce que vous lisez à haute voix votre texte?
J'ai pas de gueuloir, mais le sens du mot est pas ce que je recherche a priori. C'est-à-dire que si à un moment dans une phrase, j'ai deux mots qui se battent un peu pour pouvoir prendre la place parce qu'ils veulent à peu près dire la même chose, je prends pas celui qui est le plus précis ou le plus intelligent ou celui qui va me faire passer pour un mec intéressant, mais celui qui à l'oreille me plaît le mieux.
Ouais. Morgane ?
Pardon, qu'est-ce que c'est, un gueuloir ?
Un gueuloir, c'était Flaubert qui lisait à haute voix ses textes.
C'est ce que vous faisiez tout à l'heure, là.
D'accord.
Un vrai gueuloir.
Il testait ses textes comme s'il les proclamait. Okay. Il fallait qu'il jaillisse de sa bouche pour qu'il entende aussi cette mélodie et voir s'il était dans son beau tempo.
D'accord,
en fait.
Ok.
Mais est-ce que je peux dire que Flaubert, il déconnait complètement en pensant qu'on avait besoin d'un gueuloir? Je peux le lire ou pas?
Non, chaque auteur.
Exactement.
Chaque auteur a son truc.
Tout à fait. Non, c'est vrai. Mais moi, je me sens pas.
On peut écrire debout, on peut écrire sur un ordinateur, on peut écrire sur un. D'ailleurs, et vous, quel est votre truc?
Non, mais je vais juste répondre sur ce truc-là. Imaginez que, a priori, je parle très mal. Est-ce que je suis capable d'être à la hauteur d'une belle phrase simplement dans l'intonation que j'emploie ? Il y a des gens, par exemple, quand ils lisent mes textes, qui les jouent. Mmh. Et ça, je ne suis pas content du tout. Mmh. Il y en a d'autres qui sont complètement en retrait. Je ne suis pas content du tout. Donc, c'est compliqué. C'est pour ça que le fait de me dire « ça va m'avancer à quelque chose d'avoir un gueuloir », non, parce que la voix, ce n'est pas la même chose que ce qui est écrit.
C'est étonnant pour un parolier.
Je suis pas un parolier, moi, je suis rien du tout. Je suis copain avec un gars qui chante, mais je suis pas un parolier.
Alors c'est étonnant pour un gars qui est copain avec un chanteur et qui lui écrit des textes.
Mais ils sont sévères, ils sont quand même entre les deux. Non, ouais. Oui.
C'est que les meufs, hein, nous, on est.
C'est la fin.
Et encore.
C'est un moment où vous dites, c'est un peu compliqué parce que la personne qui va prendre vos paroles et qui va les mettre sur scène, si vous ne faites pas le bon choix, ça va être une catastrophe. Parce que le plus beau texte du monde, s'il est mal chanté, si la musique n'est pas bien, c'est une catastrophe. Mmh. Alors qu'un texte qui n'est pas terrible, comme Déjeuner en paix, c'est pas terrible, mais il y a un type derrière qui sait l'interpréter, qui a mis une mélodie incroyable dessus.
Alors tous les textes de chansons ne supporteraient pas une simple lecture sans interprétation. C'est quand même pas le cas ni de Déjeuner en paix, ni de...
C'est ce que vous venez d'expliquer en fait. Ça peut être une phrase banale, mais tout dépend de ce qui précède et de ce qui suit.
On en revient à le ciel est bleu. Mm-hmm. Faire un truc tout bête et lui montrer que même là, il y a une beauté quelque part.
Sauf que sur cette chanson, il y a beaucoup de débats et d'interrogations sur le sens à y donner. Est-ce qu'à partir du moment où un texte a été écrit, le sens appartient à celui qui l'écoute ? Et non plus à celui qui l'a écrit.
Il appartient à qui veut s'en approprier. Mais par exemple, ça a été un moment, il me disait, c'est l'hymne des gays. Moi, j'étais très content. Les gays, j'ai pas d'amis comme toi. Oui, bah, c'est sympa. S'ils veulent le prendre et que ça les amuse, pourquoi pas. Mais moi, j'ai pas écrit ça dans ce sens-là. C'était vraiment dans une amitié qui naissait avec un autre homme. C'était, j'ai pas d'amis comme toi. Et c'est ce que j'avais envie de lui dire.
Alors, moi, ce que j'entendais, c'était une déclaration d'amour presque à sa femme, en disant « t'es aussi mon meilleur ami », ce qui est encore une...
Mais ouais, vous avez pas tort, c'est aussi une déclaration d'amour pour une personne, pas forcément une femme, ça peut être n'importe quoi. Oui, c'est des déclarations d'amour. Quand tu t'approches de moi, le silence, je baisse les yeux. J'aime bien cette image, plutôt de dire « mais t'as vu, elle passe près de moi, elle est géniale, elle a des gros seins, elle a des grosses fesses ». Non, c'est simplement, je baisse les yeux devant toi, devant ta beauté, devant ta manière de te déplacer devant moi. Merci, je leur dis.
Philippe Gian signe double Nelson, on va continuer d'en parler, mais comme il vient de la décrire à l'instant, voici Florence Mendes.
Ça, c'est séducteur,
oui, Philippe.
Charming, le qui est un beau.
À mon âge, on est plus séducteur. On est plus séducteur.
Avant de commencer, je tiens à rassurer les auditeurs.
Et mon mari.
J'ai pas été jusque là. Avant de commencer, je tiens à rassurer les auditeurs. Si vous avez raté la dernière émission de Nagui, rassurez-vous, lui aussi. Sans transition. Aujourd'hui, je vais vous parler de la fin du monde.
C'est faux.
Ouais. Je vais vous parler de la fin du monde. Alors Daniel, je vois que le sujet vous plaît. Hein. On vous a plus vu sourire comme ça depuis votre dernière coloscopie. Alors ce matin, je vous emmène en 2023. Sachez qu'une tempête solaire pourrait anéantir Internet. Cette année-là, selon les spécialistes, on devrait assister à d'impressionnantes éruptions solaires avec, et je cite, « de massives éjections de masse coronale ». Éjections de masse coronale, on dirait du porno pour Hubert Reeves. Le monde tel que nous le connaissons disparaîtrait donc dans un grand boucaquet cosmique. Inutile de paniquer, hein, la probabilité qu'un tel événement se produise oscille entre 1,2 et 12% par décennie, soit à peu près les mêmes chances d'avoir un orgasme avec Jérémy Crédville.
Dis donc.
Tout de même. Plus d'internet, plus de réseaux sociaux, ça va tuer sur le coup les candidats de télé-réalité. Mais il n'y a pas que des bonnes nouvelles. On perdrait un accès si facile au divertissement. Fini Morgane, les vidéos de chats, les hilas de danse, Tanguy d'accident de voiture. Heureusement, il nous restera les concerts, les théâtres, le cinéma. Si l'on n'est pas à nouveau en pleine pandémie, vous imaginez refaire 2020, mais sans internet, il nous restera plus que la drogue. Voilà. Je dis ça, mais moi je fais une très mauvaise droguée. J'en ai pris une fois, ça s'est très mal passé, c'était des champignons. fille pendant un voyage scolaire. Bon, c'était à l'époque, hein, quand j'étais prof. On perdrait aussi une source intarissable de connaissances qui peut se révéler tellement utile, même dans des situations auxquelles on ne s'attend pas. Moi, par exemple, je suis sujette à une forte anxiété. Hier soir, bah, c'était un mercredi, tout ce qu'il y a de plus normal, j'étais seule chez moi et je pensais à la mort. Eh bien, plutôt que d'angoisser inutilement, j'ai préféré me cultiver en lisant un article consacré à la faune sous-marine. Le titre, c'était « Connaissez-vous le cannibalisme intra-utérin chez le grand requin blanc ?» Wow. Alors là, comme ça, non, mais franchement, j'ai hâte. Par contre, si Internet disparaît, ce qui me manquera pas, c'est les trolls. Alors promis, je vais pas m'énerver, voilà. Un troll sur Internet, c'est une sorte d'Éric Zemmour, mais sans charisme, tout est gris et hyper égocentrique. Bref, c'est Éric Zemmour. Sur les réseaux sociaux, c'est plutôt Robert, 52 ans, qui n'aime personne, ni les femmes, ni les gays, ni les arabes. Par contre, il verse sa petite larme quand il entend Johnny chanter Diego. Ah, ça oui, Robert, il est prêt à mourir pour ses idées, surtout si c'est pour se battre contre ces sales gauchos. Robert, tu te renseignais sur l'histoire du Chili? Bah non, quel rapport? Ok, d'accord. En plus, des bêtes, on doit aussi se taper les méchants, comme Kevin, qui a pas eu une existence facile, hein, avec son paternel à la main lourde, qui le traitait de fiotte, les autres élèves qui se moquaient de lui, mais qui est maintenant très populaire au sein de sa virtuelle petite bande de potes. Il insulte les femmes sur Internet. Moi, j'aime bien parce que alors les copains, ils me mettent des pouces. Mais dis donc, Kevin, tu serais pas en train de rechercher la validation de tes pairs en exerçant à ton tour une violence systémique dont tu as pourtant toi-même été victime? Et que dire de ceux et celles qui s'improvisent critiques, artistiques, qui sous chaque sketch, chaque chronique te défait, hein? C'est quand qu'on rit? Quand t'as compris la blague, Martine? C'est-à-dire pas souvent. J'ai regardé ta vidéo, j'ai perdu 4 minutes de ma vie. Ouais, ben c'est pas forcément une mauvaise nouvelle. Et le fameux, c'est pas pour être méchant, mais suivi d'un truc tendre comme une clé de bras, tu vois. Alors, c'est pas pour être méchant, mais j'ai vu des chiens morts de la chiasse moins dégueulasse que ta gueule. Mais nique-toi, Michel! J'imagine même pas à quel point tu dois te faire chier dans la vie. Je suis sûre que t'as été conçu devant chasse et pêche et... Oh. Pardon, j'ai à nouveau perdu mon calme. Enfin, voilà. Merci, Internet, et vivement 2023.
Merci! Bon, Mendez. Philippe Gian est notre invité. On va vous recevoir Christophe Gomard, ancien combattant des forces spéciales et ex-directeur du renseignement militaire, parce que c'est aussi un angle intéressant dans votre livre. Il y a plusieurs facettes. On peut le prendre comme une histoire d'amour, on peut le prendre comme une mise en abîme d'un écrivain, puisqu'il y a beaucoup de remarques faites sur la solitude de l'auteur, la difficulté d'écrire, le rapport avec son éditrice aussi. Il y a beaucoup de choses quand même qui expliquent le
C'est un sport de combat aussi, c'est comme l'amour, quoi. On a l'impression que c'est une épreuve physique à chaque fois.
Ce qui est quand même
un bon rapport qualité-prix dans le livre. Hein.
Pardon ?
Il y a un bon rapport qualité-prix hein, dans
oui,
le livre.
Oui, c'est ça.
Vous avez beaucoup de choses pour pas beaucoup de pages, et, pas trop cher, mais ça va, je suis content quand même.
Ah ouais.
Une bonne affaire. Hein.
Mais vous tenez à le préciser que ça se veut drôle. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure.
Ouais, drôle. Je sais pas si c'est compliqué d'être drôle, hein. N'est-ce pas? C'est compliqué, ça vient pas facilement.
Et... sans ponctuation.
C'est pas drôle, c'est. J'essaye d'être léger. Céline disait que.
Ce qui est pas facile non plus, on va pas se mentir. Hein.
Pardon?
Ce qui est pas facile non plus, on va pas se mentir.
Non, c'est pas, je sais que c'est difficile.
Et Céline disait quoi?
Que ses contemporains étaient lourds.
Pardon?
Ses contemporains étaient lourds.
Mes contemporains sont lourds, c'est ça qu'il disait. Donc il vaudrait mieux dans. En tant que journaliste, qu'écrivain, que boulanger, de garagiste, essayer de trouver de la légèreté dans la vie. Donc l'idée, c'est qu'on vit dans des choses tragiques, comiques.
Double Nelson, le nouveau roman de Philippe Gian, c'est publié chez Flammarion, je ne l'avais pas précisé. En 62, vous écoutez, vous découvrez peut-être...
Camino del llano viene, tanta soledad. Camino del llano viene. En la soledad, el cabrestero cantando.
Simone Diaz, à vous fermer les yeux, vous, ça y est, vous êtes parti là.
Il est emporté. C'est beau l'allemand.
Chez vous, là,
j'en Philippe. Pleure.
On dirait un chef d'orchestre qui est pris par la musique.
Qu'est-ce que ça vous fait ?
C'est absolu, ce truc. Ah non, mais.
Ça vous émeut encore ?
C'est depuis ce moment-là que je déteste Marie Laforêt.
Alors Alors pourquoi
elle est morte en plus, la pauvre, donc je la plains pas.
Parce qu'elle avait fait une version.
Elle a fait une version très Marie Laforêt, avec les Falbala, les machins et tout ça. Alors là, ce qui est génial, qui est enfin, très
pardon,
beau,
tout à l'heure, vous citiez des musiciens qui reprenaient à leur manière, dans leur univers, des musiques et ça vous émouvait. Laissez Marie Laforêt le faire.
Non, mais j'ai bien l'impression qu'il la laisse.
En plus, elle est morte en Suisse, au bord du lac. Donc
ça ne vous a pas plu, on l'a compris. Mais visiblement, là, je décris quand même aux auditeurs, vous fermiez les yeux, même le sentiment que vous aviez les larmes aux yeux en écoutant Simone Diaz.
Je suis un super bon acteur. Hein. non, mais c'est vrai que je fais ça, mais ça n'a pas empêché que sous mon t-shirt, les poils de mes bras se hérissaient quand même. Ah, ça ne se voyait pas, mais
Florence
voilà.
avait raison, d'accord.
Non, mais il y a ce truc, je ne sais pas si vous avez, alors j'espère que tout le monde va se précipiter pour acheter ce Simone Diaz. Mais le moment où il passe de la voix, on ne sait plus si c'est une femme qui est en train de chanter et qui reprend dans la même truc la voix de l'homme, quoi. Et ça, il ne pouvait pas faire ça, Marie Laforêt. C'est pour ça que c'est moins bien.
Le rire après.
On est en 62, Philippe. On va parler de l'année 62 et on va parler de, bah, finalement de cet ami, Jérôme Ecker. Je n'ai pas d'amis comme toi. Il a joué un rôle important. C'est un copain que vous avez rencontré sur les bancs de l'école en classe de 4e.
Ouais, c'est plus un copain, c'est bah, il est mort en plus. Donc,
ouais.
Non, c'est quelqu'un qui m'a ouvert. J'étais un petit couillon de Parisien qui connaissait rien à rien, qui était allé au lycée normalement. Et ce type arrive des montagnes en 4e, il n'avait jamais mis les pieds à l'école. Et comme moi, j'étais un petit peu aussi un petit couillon, j'étais tout seul. Et il me dit, je peux m'asseoir à côté de toi. Et je dis, ouais, ok. Et dans la demi-heure, mais pas loin, il me dit, tu sais, si tu veux qu'on devienne vraiment copain, il faut qu'on s'écrive. Je dis, ah bon? Et il me dit, oui, allez, et je vais commencer par moi. Donc il m'écrit un truc. Et je tombe un peu en admiration, parce que je dis, mais c'est super beau, c'est vachement bien écrit et tout, je suis incapable d'écrire ça comme ça, moi. Et il me dit, bah si, tu vas t'y mettre quand même. Et donc il m'a forcé à faire attention à ce que j'écrivais, alors qu'avant, je n'avais pas de problème particulier avec ce que j'écrivais, il n'y avait aucun intérêt. Mais il m'a montré que quelque part, c'était des moments dans une vie de petit lycéen, que de s'asseoir et de dire, voilà, je vais essayer de mettre noir sur blanc ce que j'ai fait dans la journée. En général, il n'y avait rien. Et c'était parce qu'il n'y avait rien que ça devenait intéressant.
Cette amitié épistolaire, vous l'avez conservée ?
On est partis en Colombie ensemble. Oui.
Vous avez gardé les lettres ?
Ouais. Et c'était marrant parce qu'on avait un prof qui nous aimait beaucoup, un prof de français, et qui avait dit, toi, Jérôme, tu seras écrivain, et toi, Philippe, tu seras journaliste. Et c'est lui qui est devenu le journaliste, et c'est moi qui suis devenu écrivain. Comme quoi, les profs de français, hein, bon.
Et comment
enfin,
vous...
quand même, il a vu le nez pour les deux, quand même.
Ouais.
Quand même.
Et comment...
un mec génial. Il y a des profs comme
c'est
ça.
Et ce prof qui vous a donné aussi l'envie, j'imagine.
Ce prof, avec le peu d'argent qu'il gagnait, se payait les trucs à Bayreuth pour aller écouter Wagner, et quand il revenait de ses écoutes qui duraient 3 ou 4 jours, il se mettait au tableau pour nous faire un dessin de ce que c'était qu'un opéra ou que c'était qu'une musique. Et il se retournait, il pleurait, le gars. D'émotion, il pleurait. De beauté, de la beauté qu'il avait approchée, il en pleurait. Et moi, je me dis, ça existe dans le monde, ça a une beauté qui peut vous faire pleurer tellement elle est pure, tellement elle est intéressante et tout. Alors, c'est ce que je recherche depuis 40 ans dans mes bouquins. Je n'ai pas encore réussi à faire pleurer tout le monde. Mais c'est un petit peu, c'est ça, c'est une émotion que vous avez ressentie. Bah, déjà, ça vous rend un peu humble. Mais vous allez essayer d'être à peu près, de ne pas faire tâche. Donc c'est pour ça que dans mes livres, j'essaye de mettre un peu de poésie, j'essaye de travailler les phrases et tout ça.
On l'a dit, vous découvrez ensuite l'attrape-cœur de Salinger, beaucoup d'auteurs américains, Kerouac, Carver. Et puis vous faites une interview, vous avez une vingtaine d'années. Je crois que vous interviewez la veuve de Céline, Lucette Destouches, pour le magazine littéraire. Comment se passe cette rencontre ? Elle est décédée il y a peu de temps.
Ouais. Bah, comment ça se passe ? Je devais être le 167 000e journaliste qui devait lui demander comment ça se passait. J'étais en admiration parce que Céline, moi j'ai rencontré... j'ai rencontré Céline à un moment où je ne savais pas tout ce qu'il y avait autour de lui. Parce qu'au lycée, on ne nous en parlait pas et que mon copain Jérôme me dit...
Là, vous parlez de l'antisémitisme.
Ouais. Je ne savais pas. Donc quand vous lisez Le Voyage au bout de la nuit, pas de problème.
Ouais.
Après, ça devient un peu plus compliqué, mais il n'empêche qu'il me fait découvrir un monde incroyable. Au lycée, pourtant, à la fin, on commence, quand on a pris la section lettres, à s'intéresser un peu à la littérature, mais sinon personne au lycée m'en parlait. Et je découvre un monde incroyable, et je me dis, voilà, la littérature, c'est quand même un sacré truc. Et c'est pour ça qu'après, Salinger, Kerouac, machin, parce que c'est des gens qui me font vivre, c'est des gens qui m'ont appris à vivre, à regarder le monde... tel qu'il est ou tel que j'avais pas encore compris qu'il était.
Mais vous aviez quelle curiosité quand vous l'avez interviewé, Lucette Destouches?
Quelle
curiosité? Quelle était la question qui vous animait le plus au moment où vous l'avez rencontré?
Sentir l'ambiance de ce lieu où c'était trimballé cette espèce de mec là, qui ressemblait vers la fin, enfin il le faisait un peu exprès, qui ressemblait à un clochard.
Ouais.
C'était un truc assez incroyable, une espèce de capharnaüm dans une grande pièce avec une dame qui était là. Mais je crois que je ne sais même plus ce qu'elle m'a raconté. Je sais que j'y suis allé parce qu'il publie à Rigaudon et que Céline ne l'avait pas encore mis en place. Et que c'était sa femme, donc Lucien Almanzor et l'avocat de la famille, qui avait travaillé depuis je ne sais pas combien de temps pour mettre Rigaudon en place. Donc ça m'intéressait que moyennement ça.
Il y a toujours la question de faut-il distinguer l'homme, enfin, ou l'être humain, la femme, de son œuvre. De savoir, Céline antisémite, change votre regard sur son écriture ou pas du tout?
Je ne sais pas quoi répondre, c'est vraiment un truc très très compliqué ça. Je déteste le Céline des Bagatelles et de compagnie. Je trouve que c'est même un peu dommage qu'il se soit rabaissé à faire ça. Il n'avait pas besoin de faire ça. Mais en même temps, les gens sont tellement bizarres et particuliers. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il y a des gens, il y a des bouquins qui ont été écrits où des types disaient « Mais moi, Céline, je l'emmenais dans des espèces de réunions ariennes et il se mettait au fond de la salle et il disait « Et la connerie arienne, tu sais ce que c'est ?» Dans des trucs où il n'y avait que des types en uniforme. Et puis d'un autre côté, c'était un mec qui était mauvais. On ne sait pas très bien comment ça s'est passé avec ce type qui était... dans l'hôpital où il travaillait, il a trouvé un moment que c'était parce que le gars était juif, qu'il pouvait pas le blairer. Donc je peux pas dire j'évacue. Je connais pas ce truc-là. J'ai jamais relu Céline depuis, mais c'est resté un grand moment. Il inventait quelque chose. Je veux dire, il disait à un moment, il y a que les Chinois qui ont eu cette capacité à travailler leur langue et à changer leur langue. Nous, en France, on est incapable de faire ça. C'est pour ça que lui, il y a les petits points, les machins.
Non, mais vous n'avez jamais relu Céline depuis. Or, vous avez relu les Kerouac, les London et autres
Faulkner. C'est pas le même genre.
Hein. Oui, oui. Non, mais je veux dire par là, c'est ce qui vous a quand même freiné. En 85, vous écoutiez Dylan. I want you. I want you. I want you.
Honey, I want you. Et 85... C'est un roman et un film, c'est 37-2 le matin, votre deuxième roman, et vous dites que ce qui vous intéressait à l'époque, c'était de raconter une histoire con, mais de l'écrire bien.
Merci, mais je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais non, mais la banalité et la connerie, si vous savez vous en servir, ça peut devenir intéressant.
Mm-hmm.
C'est pas parce que vous allez choisir un sujet où tous les gens vont dire « Waouh, vous savez, le mec, il est hyper intelligent, hyper malin. » Non. Faire ça avec la banalité, faire ça avec la vie, faire ça avec... moi, j'aime bien ça. Et c'est pour ça que j'essaie d'écrire d'une manière qui m'intéresse par rapport à l'époque qu'on vit aujourd'hui. Parce que je trouve que cet outil de la langue, on l'a perdu et les gens n'arrivent plus à se parler. Et quand on n'arrive plus à se parler, qu'est-ce qui se passe? Le poing se ferme et on se fout sur la gueule. Donc quelque part, c'est pas en demandant aux gens à lire du sous-Proust, parce qu'il y a encore des gens aujourd'hui qui essaient d'écrire comme Proust, c'est pas en faisant ça qu'on fait avancer les choses. Moi, j'essaie de mettre une langue en place qui n'est pas une langue que vulgaire, que élégante, que machin. Il y a un truc à trouver entre les deux. Il y a une longueur des phrases, il y a une manière de découper la phrase, il y a une manière de trouver un autre rythme dans la phrase. Et c'est ça l'écart, le changer l'angle. Regarder une histoire et la raconter différemment.
La phrase que... Alors, je me suis totalement trompé. Non seulement il y a un verbe, mais il y en a plusieurs. Mais c'est une phrase qui, au moment de la lecture, m'avait troublé. La phrase est « Mais cette fois, vraiment pleuvoir, un véritable déluge que médusé Luc regardait s'abattre sur les alentours. »
Vous voyez pourquoi je ne veux pas aller dire mes textes?
Non, mais
quand
moi, je les lis
pas bien,
on
enlève tout ce qui est...
D'accord. Ah, vous la liriez comment?
Ah, je ne veux pas la lire, parce que je suis incapable de lire, moi. Je sais que ma langue parlée rabaisse tout ou ramollit tout.
Je ne savais pas comment vous le dire.
Sinon, je serais l'auteur.
Est-ce que vous comprenez le trouble dans cette structure-là, mais cette fois, vraiment pleuvoir un véritable déluge que... Virgule.
Enfin, c'est... Bah, ça vous plaît ou ça vous plaît pas?
Non,
répondez à la question, monsieur.
Mais exactement. Non seulement je l'ai retenue, mais elle a cadencé le rythme de ma lecture. C'est-à-dire que d'un coup, elle a créé quelque chose où j'étais plus dans le même tempo.
Mais moi, ça me fait ça quand je lis d'autres auteurs qui me font le même genre de
Donc ça marche.
Et je voulais revenir à 37.2 parce que c'est un roman et ça a été aussi un film qui a aussi bouleversé votre vie parce que du jour au lendemain...
Jamais de la vie.
Bah en tout cas, alors moi je vais vous dire comment ça a bouleversé potentiellement votre vie, c'est que ça a eu un succès retentissant au cinéma et vous êtes parti, vous l'avez dit, vous ne vouliez pas vivre ça, que c'était trop lourd à porter d'être désigné comme cet auteur rock, cet auteur d'une génération. Ça bouleverse ou pas de partir ?
Non, parce que j'ai compris qui avait été, à qui ça avait changé la vie. Alors comme j'expliquais que c'était pas la mienne, mais celle de Benex, oui.
Ouais.
Parce que c'est le film qui a eu un énorme succès.
Non, mais
sinon,
vous aussi,
le bouquin,
vous aussi, votre notoriété, elle a été.
Oui.
Et votre notoriété aussi.
Alors, moi, quand j'ai vu comment ça commençait à prendre forme, ça ne m'intéressait pas du tout. J'aime pas ce truc de rapport de qu'est-ce que c'est bien ce que vous avez fait, tout ça. Donc, j'ai voulu partir. Mm-hmm. Et j'étais aux États-Unis quand il y a eu la grosse sortie et le truc. Et j'entendais qu'il y avait un mec là-bas qui avait écrit un truc et ça marchait pas mal pour lui, mais j'étais loin de ça. Donc, ça n'a pas changé ma vie. Ça m'intéresse pas, ce genre de truc.
On va parler de la vie de notre invité, ancien combattant des forces spéciales et ex-directeur du renseignement militaire, Christophe Gomard. Bonjour Christophe, merci.
Bonjour
monsieur.
Général,
merci
bonjour.
De venir à ce micro. Oui, d'ailleurs, vous avez un grade, je dois dire, mon général.
Alors, je suis général en deuxième section, c'est-à-dire que je suis rappelable. Mais voilà, je suis sinon Christophe Gomard, tout simplement.
Mais je ne peux pas dire mon général, parce que je ne suis pas militaire.
Ah si, vous pouvez le dire. Les hommes disent mon général et les femmes général.
Oui, voilà, moi j'ai pas le droit de dire mon. Je me suis fait alpaguer comme ça dans une émission.
Je peux dire mon amour, mais pas mon général.
Je peux dire amour.
Vous avez publié Soldats de l'ombre au cœur des forces spéciales, qui sort en poche le 22 septembre qui vient, là, dans une dizaine de jours. Vous avez quitté l'armée en mai 2017, comme Philippe Jean l'a reconnu tout à l'heure. Il a lu un article, qu'il ne s'est pas documenté sur les forces spéciales, mais que ça reste une histoire d'amour d'une personne qui est dans ces forces spéciales. Est-ce qu'on peut avoir une vie privée quand on est dans les forces spéciales, c'est-à-dire manipuler, faire des opérations ou être dans des secrets, et de l'autre côté, avoir une famille, une vie, intime. Et de ne pas pouvoir parler intime et de ne pas pouvoir parler de son boulot à table?
Moi, c'est ce que j'ai bien aimé dans le livre. C'est la difficulté de communication du couple, au-delà de l'histoire d'amour, c'est celle-là. C'est-à-dire qu'en fait, elle ne raconte pas tout et elle ne peut pas tout raconter. Elle est passionnée par ce qu'elle fait, elle est totalement engagée. Ce que nous sommes, dans les forces spéciales en général, les gens sont. Et de fait, il y a souvent des problèmes de communication. Et parce qu'on a deux êtres qui sont sur deux trajectoires opposées. Ouais. Et ils se retrouvent, et c'est ce qui est beau dans cette histoire, c'est qu'ils finissent par, fendre un peu l'armure. Et elle ne raconte pas tout, elle. Si, elle finit par l'incorporer à la fin. Du livre sur ce qu'elle dans son aventure, dans son action, dans sa mission.
Oui, parce qu'elle est vraiment arrivée au bout du rouleau. Quoi.
Oui.
Il y a un moment où justement, mais ça laisse des traces. Votre métier est pas que des traces visibles. Donc le besoin de penser les plaies, qu'elles soient psychologiques, affectives, mentales, on se retourne sur sa famille, j'imagine, non?
Ça, c'est vrai. C'est-à-dire qu'on a besoin d'une famille, et je ne pense pas que j'ai eu la carrière qui était la mienne si j'ai pas une famille sur laquelle je puisse m'appuyer, qui ne sait pas tout ce que j'ai fait, à qui je n'ai jamais tout dit ce que j'avais fait. Je pense que c'est pour ça que j'ai un peu écrit, d'ailleurs. C'était un peu pour témoigner de ce qui avait été ma vie, parce que j'ai des enfants qui sont arrivés plus tard dans ma vie. Donc, c'était une manière de leur raconter ce qu'avait été ma vie avant de les avoir et ce qui est devenu ma vie après.
Les plus grands dangers dans votre métier, ce sont des dangers physiques, c'est parce qu'il y a beaucoup de morts dans le livre de Philippe Jean, il y a beaucoup de camarades, entre guillemets, qui dans des opérations sont tués ou abattus ou disparaissent. C'est vraiment le quotidien des forces spéciales?
Oui, la vie est risquée, c'est d'ailleurs un peu ce qui donne l'adrénaline et ce qui permet justement de vivre cette passion. Le risque, il est à l'entraînement, il est aussi lorsqu'on est engagé sur les théâtres d'opérations, avec malheureusement des gens qui sont tués. Mais je vais dire, on n'y pense pas avant d'y aller, on pense qu'on va s'en sortir, et puis malheureusement, certains meurent, heureusement en faible nombre.
Il y a des risques, il y a aussi des fiertés, des honneurs, de sauver des vies, de libérer des otages, d'être aussi...
Vous savez, j'ai fait une conférence devant les jeunes du Service National Universel, parmi lesquels il y avait deux jeunes d'origine malienne, et qui m'ont remercié à la fin de cette conférence d'avoir sauvé leurs parents à Gao lorsque les forces spéciales sont entrées en janvier 2013. Ne serait-ce que ça, ça fait vibrer, ça fait fondre le cœur, et on se dit que finalement on a bien fait.
Finalement, vous êtes sensible, hein, pour un gars balèze, là.
On est tous sensibles.
Le cœur qui vibre et tout, moi je crois que c'est un dur, là.
Est-ce que vous encourageriez...
Oh, je suis c'est ce qui nous rend humains.
Un jeune qui voudrait rentrer dans ces forces spéciales, vous
je l'encourage d'y aller, parce que c'est une vie passionnante. C'est une vie certes risquée, mais c'est une vie passionnante et j'ai dit, on s'éclate, pour parler vraiment.
Cette passion, donc, vous la transmettez dans votre livre, c'est le 22 septembre prochain, c'est la sortie en poche. Hein.
La sortie en poche, oui, cher Harper Collins.
Ça s'appelle « Soldats de l'ombre au cœur des forces spéciales ». Merci et bravo pour ce que vous avez fait pour le bien des autres.
Denis Pastureau a dit qu'il vous prenait quand vous voulez.
Christophe Gomard. Christophe Gomard.
Non, je pense que je perdrai.
Voici Jérémy Crédville.
Mesdames, ce matin, je vais vous parler de Jean-Philippe. Mais vous le connaissez plus sous le nom de Johnny.
Ah.
Voilà, bon, c'est comme ça dans le showbiz, hein, y a pas à comprendre. Johnny en vrai il s'appelle Jean-Philippe, Arthur en vrai il s'appelle Jacques, Nagui en vrai il s'appelle André. Hein, Dédé ? Personne le savait, mais ce mardi,
même lui c'est pas.
Ce mardi a été inaugurée devant Bercy une statue en hommage à Johnny. C'est un manche, voilà, pas Johnny hein, la statue, un manche de guitare de 6 mètres de haut avec une Harley Davidson au sommet. Voilà, mais sans le moteur, hein, dans un souci écologique, dans un souci tout court. Hein, je veux dire, elle est à 6 mètres de haut la moto et personne qui va la démarrer, hein, qui fait 6 mètres de haut. Géant vert, aucun maïs ne fait de la moto, de mémoire. Non, le tout ça posé sur un granito bleu au sol évoquant le Walk of Fame d'Hollywood. Là, clairement, l'artiste a fait une recette avec les restes. Voilà, il s'est dit, allez.
C'est une mayonnaise.
Ça sent la béchamel. Ou alors, il s'en est souvenu la veille. Oh putain, la statue de Johnny, merci demain. Bon, allez, prends une moto impliquée. Alors, je peux vous dire que, en voyant la statue, les fans ont gueulé. Alors, normalement, les fans, ils gueulent « Mourir d'amour enchaîné !» Là, ils ont gueulé « C'est moche !» L'œuvre s'appelle « Quelque chose d'eux ». Alors, vous me voyez venir, moi, ce matin, en hommage à Johnny, je vais chanter
« Quelque chose
de l'idole des jeunes ». Ce sera un vrai hommage.
J'espère.
J'ai des doutes.
Les gens m'appelaient l'idole des jeunes. Et maintenant, devant Bercy, en mon honneur, une statue pourrie. Quand je la vois, je ris. En guise de sépulture parisienne, un manche en bois et une Harley posée sur une pierre hollywoodienne. Moi je la trouve à chier. Elle est limite infantile, perchoir pour volatile. Peut-être que le sculpteur a fait de l'humour aussi joli qu'une verrue ou qu'un chauve un peu chevelu. Nul besoin de statue quand j'ai votre amour. Y a mon visage sur des bras, des pecs, tatoué souvent sur des gens du Nord. Des portraits pas toujours corrects, en hommage sur des corps. Et les bikers défilent, gros ours tendres et fragiles. Certains me suivaient depuis le premier jour. Moi j'aimais rire et danser, mais le spectacle est terminé. Alors ce projet d'art plastique, je ne suis pas pour. Les gens m'appellent l'idole des jeunes. Pour eux je serai toujours en vie. Mais vous savez, moi au paradis, bien entouré je suis. Bien entouré je suis.
Wow. C'est beau.
Oui.
Et
Jérémy, on se retrouve au théâtre Sébastopol de Lille le 20 décembre en tournée partout en France. Et j'ai oublié de dire tout à l'heure pour Morgane qu'elle est du jeudi au samedi à 20h au Métropole Théâtre. Ça, je le dis pour Philippe Jean parce que je pense qu'il y a une histoire à continuer. Ouais.
Elle t'a fait un joli dessin.
Si ça vous intéresserait le mardi à la petite loge.
Ah bah très bien. Tanguy Pastureau, de quoi parles-tu aujourd'hui?
Ah bah je veux parler des jeunes, les 16-25 ans. Une étude révèle que 56% d'entre eux souffrent d'éco-anxiété. Ils pensent même que l'humanité est condamnée. Forcément, ça donne pas envie de s'engager dans un petit BTS.
La bande originale, oui, avec Léa Gagnon, avec Morgane Gagnon, avec Florence Mendel, Jérémy Crédville, Tanguy Pastureau, Daniel Morin et Philippe Gillian qui est notre invité. Encore une musique qui est présente dans le lit, on peut en écouter plusieurs hein, d'ailleurs. On est dans une forme de méditation avec pas ces mal, musiques. Hein. Bah, pas mal, c'est vous qui l'avez programmé.
Je suis content. Hein.
Avec cette ces forces spéciales dont on a parlé tout à l'heure avec le général Gombard, il y a ce suspense entre guillemets que ce soit au sein du couple d'ailleurs ou au sein même de l'enquête diligentée par cette fille qui est dans les forces spéciales, Edith, qui joue sa vie, qui se teint, qui se cache, qui se planque, qui est exfiltrée. Enfin, il y a tout un suspense et il y a l'histoire quand même de cet auteur, alors que vous ne vous soyez pas documenté pour les forces spéciales, j'entends, sur la vie de l'écrivain, on peut pas s'empêcher d'imaginer qu'il y a beaucoup, déjà en musique, déjà dans les références d'auteurs aussi, mais beaucoup de points communs avec vous.
Ce que j'ai bien aimé faire dans ce livre-là, c'est qu'on sait pas du tout quel genre d'écrivain c'est. On sait pas ce qu'il écrit.
On sait même pas s'il s'inspire d'ailleurs de la vie d'Edith pour écrire. Ouais.
Ce qui m'a amusé, c'est de parler du fait de s'asseoir devant sa table et puis d'avoir des problèmes d'écriture, mais on ne sait pas ce qu'il écrit. Donc ce n'est pas un poète, ce n'est pas un penseur, ce n'est pas un philosophe, on ne sait pas ce que c'est. Et ça m'amuse, parce que ce qui reste, c'est que c'est très chiant d'écrire, hein, vous savez ça.
C'est ce que vous dites dans le livre.
C'est un boulot de dingue. Ouais.
C'est ce que vous dites dans le livre, et d'avoir une lectrice qui tombe amoureuse dès la première lecture ou la première rencontre à un salon du livre et qui en devient dangereuse, suspecte, un peu à la Misery de Stephen King.
Ça ne m'est pas arrivé à moi, mais c'est arrivé à Stéphane.
Et Stéphane Escher, ouais.
Et comme cette fille-là n'arrivait pas à trouver le joint pour le contacter, elle venait vers moi. Et elle me suivait dans mes lectures pour me dire « Tu ne pourrais pas donner ça à Stéphane, tu ne pourrais pas ?» Et quand je lui disais « Mais attendez, elle me dit « C'est qui la femme à côté? Qu'est-ce qu'elle fout là ?» Je lui dis « C'est sa femme, il est marié depuis... » Ah bon ?« Non, non, c'est pas possible. » Et puis après, elle me disait « Mais tu sais, si je vais à tous ses concerts... » Alors elle faisait toute la France comme lui. Elle s'essayait au troisième rang sur la gauche et elle me disait « Tant qu'il ne m'a pas regardé, le concert foire. » Mais à partir du moment où il me regarde dans les yeux, ça y est, et donc les gens vont applaudir. Et voilà, et ça a duré 20 ans comme ça.
C'est inquiétant. Ah
ouais, non, c'est sérieux ce truc-là. En
plus, Florence, t'as arrêté depuis.
Ce qui est marrant, c'est que c'est pas du tout physique, hein. L'érotomanie, c'est pas ça. Hein. C'est simplement penser que l'autre est amoureux de vous et qu'il n'ose pas vous le dire. Ou que les choses font qu'on n'ose pas. Donc, c'est pas physique, c'est pas un truc physique.
Ça commence par un baiser dans votre livre.
Oui, mais moi, c'est une comédie, moi. Je fais ce que je veux. Je suis le seul maître à bord. Oui, un peu. Mais c'est un baiser gentil quand même, hein. Ça pourrait être plus violent. Vous n'allez pas me dire que dans un roman, si une femme s'approche d'un homme pour lui l'embrasser sur la bouche, on va pas. Tout va bien, c'est pas grave.
Non, mais s'il n'y a pas consentement.
Ah voilà, ça recommence.
Dans l'autre sens aussi.
Dans les deux sens.
Oui, lui, il ne consent pas vraiment, mais il dit rien quand même.
Non.
Il la regarde en plus parfois un peu intéressée à certains moments.
Attendez, c'est une femme qui commence à vous dire vous êtes. Toute ma vie, vous êtes mon Dieu vivant. Donc, même si on est très fort dans sa tête, on se laisse un petit peu. Alors, elle est belle en plus. Hein. Mm-hmm.
Celui qui a le regard le plus intéressé, c'est le docteur, c'est le papa, c'est George. Qui lui profite des tenues. Ah bah, son âge, Victoria's Secret.
Je déconne plus avec les vieux parce que je commence à plus être jeune. Donc, à un moment, ça me prépare. Si je peux aller toucher les cicatrices, pourquoi pas? Attendez, s'il me reste que ça, pourquoi pas? Vous cherchez la beauté là où elle se trouve.
juste sur votre droite.
Donc,
je... ah, vous êtes recoiffé, vous. Tout à l'heure, j'ai cru que vous arriviez un truc, qu'elle avait explosé un truc dans son chignon.
Elle, oh, a, va, elle a explosé un truc.
J'ai eu peur.
C'est vrai, ça lui arrive.
Non, j'ai eu peur. Hein.
Ça, c'est vrai. Philippe Dihian, qui est dans ses romans comme il est dans la vie. Ouais, c'est ça. Non, c'est-à-dire que vous. Et vous chopez des situations, vous chopez des phrases. Est-ce que vous notez d'ailleurs des choses au quotidien, comme pourrait le faire un auteur de chansons, en disant non. Tiens, j'ai une punchline ou j'ai une idée, je vais la noter pour pas l'oublier.
Non, parce que c'est souvent n'importe quoi faire ça. C'est comme on dit toujours. Est-ce que, comme j'ai habité dans plein de pays et d'endroits différents, on me dit mais est-ce que tu te sers du cadre et tout ça, et j'explique que non, parce que je veux pas me servir. Par exemple, quand j'étais dans le Sud-Ouest, j'allais à des corridas parce que les mecs du Sud-Ouest voulaient absolument que je rencontre ça. Et je sais que sur le moment, j'ai pas pu écrire là-dessus. Et je l'ai écrit quand j'habitais en Suisse, parce que je pense que ce qui est intéressant, c'est de garder que ce qui va vraiment marquer. Alors que si vous écrivez à froid sur tout ce que vous voyez, vous faites un gros machin. Et l'idée, c'est pas de faire un gros machin, surtout quand on n'est pas un auteur qui a des causes particulières à défendre. Donc je veux simplement garder ce qui m'a frappé.
Les femmes sont le moteur de ce roman, comme souvent chez vous ?
Bah heureusement, et toujours, évidemment que c'est les femmes. S'il n'y avait pas les femmes, quel monde de merde ! Attendez, il ne resterait plus que le Covid.
Il n'y aurait pas de monde, surtout. S'il n'y avait pas les femmes, il n'y aurait pas de vie. Voici Tanguy Passio.
Jeune, c'est un état d'esprit, c'est dans la tête, est une phrase jamais prononcée par des jeunes. C'est une réplique de Daron, comme « Est-ce que la musique d'aujourd'hui, on peut encore appeler ça de la musique ?» ou « Aïe, oh !» le matin quand on sort du lit. J'ai horreur du jeunisme, cette obsession de la société pour être toujours plus frais. À 60 ans, on veut en faire 40, à 40, 30, à 25 ans, des jeunes font de la chirurgie parce qu'ils se comparent aux influenceurs sur Instagram, alors qu'il suffit de s'abonner au compte de Hugo Clément. Il y a des photos de requins-marteaux victimes de la pêche illégale en train de crever. Bah moi, j'ai jamais envie de ressembler à ça. En plus, avoir une tête pareille chez Bricorama, enfin, ils pensent toujours que vous êtes en train de voler des outils. C'est incroyable les requins. Il y a le requin marteau, le requin scie. Quand Damido va se baigner, il danse autour d'elle en chantant « Merci pour votre carrière. La nature est bien faite. Je suis sûr qu'il y a un poisson qui fait visseuse. Hein, vous jetez une armoire Ikea en kit dans la mer. 30 minutes plus tard, elle refait surface. Montez quoi. Le jeunisme, c'est pathétique. Vieillir, c'est bien. Parfois, on se lève le matin, on se reconnaît pas dans le miroir. Bah, on a l'impression d'avoir couché avec un inconnu. C'est sexy. Oula. Un inconnu pénible qui, pour déconner, fait exactement les mêmes gestes que nous, mais un inconnu. On a la peau qui se flétrit. C'est magique. Moi, pour le vaccin Covid 19, il a fallu deux personnes, une qui écarte les plis, l'autre qui pique. La première disait à la seconde, lâche pas, j'y suis presque. Comme ça faisait comme Moïse quand il a ouvert la mer en deux. Et à la plage, quoi de plus rigolo qu'un vieux nudiste ? Vous lui dites, monsieur, il y a un truc accroché sur vous que vous traînez dans le sable depuis 500 mètres. Il répond, non, ce sont mes testicules. Bah, on se marre. Alors, vous allez me dire, mais Tanguy, amour, pourquoi parles-tu des jeunes ? Toi qui à 19 ans fréquentais les salons de thé en rêvant des grandes figures centristes. J'ai jamais été jeune. En classe de CP, la maîtresse m'appelait déjà monsieur Pastureau. Eh bien, parce que j'ai lu une étude sur les jeunes. Alors, 10 000 participants. 16-25 ans, dans plein de pays, publié par la revue scientifique Lancet. Vous voyez, c'est comme Femme Actuelle, mais sans l'idylloque préféré d'Ingrid Chauvin. Et cette étude montre que les jeunes souffrent d'éco-anxiété. La crise climatique les déprime et même 56% pensent que l'humanité est condamnée. Alors quand on dit l'humanité est condamnée, on a tendance à trop voir le côté positif de la chose. Plus d'albums d'Amel Bent, le deuxième tiers on va pas le payer, et si ça arrive le 13 février, on zappera en plus la Saint-Valentin, enfin on pourra faire des doigts à la dame du manège à Bijoux Leclerc en criant pas d'humanité, pas de collier. Bon, mais le jeune, il ne pense pas comme ça, parce qu'il est pur, lui. Un nouveau titre de Gims, au pire, il dit j'écoute pas, il essaye pas de foutre le feu à la Fnac comme nous. Donc, la catastrophe climatique, ça l'inquiète. 39% des jeunes disent même avoir peur de faire des enfants. Alors, je comprends, ça fait peur. C'est quand même un être rougeâtre qui sort d'une personne en train de hurler. Enfin, on a l'impression que c'est Gremlins 2. On se met hurler, non, lui donne surtout pas à manger après minuit, ne le mouille pas pour le laver, roule-le dans des copeaux de toilettes sèches. Et fait comment, Sandrine Rousseau? Enfin, c'est dur d'avoir des enfants. À 7 ans, s'ils zappent sur votre compte Netflix, le truc dans la section recommandée pour vous ne propose plus que des Peppa Pig. Vos collègues vous demandent ce que vous pensez de la nouvelle saison de The Crown, vous répondez je sais pas. Par contre, hier, Mamie Pig a grondé Peppa parce qu'elle a cassé son vélo. Vous n'avez plus d'amis, à part les autres parents, des gens avec des cernes qui murmurent ah oui, ça, Mamie Pig, elle est méchante. Et qui éclatent en sanglots parce que 5 ans plus tôt, leur vie c'était de masturber leur conjoint sur la plage de Pattaya en buvant des spritz. Enfin, c'est à ça que ça sert les doigts, contrairement à ce que vous diront tous ces cons qui parlent en langue des signes.
Avoir des enfants, ça n'a pas de sens. Mais là où ça en a encore moins, c'est si l'humanité est menacée, vous vous rendez compte, hein, inondation, incendie, tornade, il va falloir préparer ses enfants, leur apprendre à survivre dans les bois, à égorger un cerf avec la tranche d'une carte Pokémon pour se nourrir. Les jeunes angoissent. Parce que quand on est jeune, on est entier, à part les jeunes lépreux. Et on se retrouve face à un monde adulte en plein déni. Le plus gros geste pour la planète d'Emmanuel Macron, ça a été d'interdire les pailles en plastique. Enfin maintenant, la loge de Pete Doherty, on a l'impression que c'est la salle à manger de Yannick Jadot, quoi. Il se met plus de carton dans le nez qu'un livreur Amazon qui serait tombé dans la réserve. Enfin, d'après l'étude du Lancet, 58% des jeunes en veulent à leur gouvernement de n'avoir rien fait pour protéger les générations futures. Voilà, pour les éditorialistes qui, à longueur de médias, disent « Ah mon Dieu, par la flanelle de chez Burton, les jeunes ne votent plus ». Mais pourquoi ? Eh ben peut-être parce qu'ils se sentent trahis. Personne ne fait rien. Ok, Joe Biden, le sosie dentaire de Fiful Castor, s'est engagé pour la voiture électrique, mais son idée, c'est quand même de vendre des SUV électriques géants avec 17 batteries, à peine recyclables et qui en une recharge pompent plus d'énergie que DJ Snake sur une vie entière de live à Ibiza. Et tenez, regardez la pré-campagne électorale. On parle des prénoms étrangers, de l'économie. La seule mention à l'écologie de Xavier Bertrand, ça a été de dire « Les chasseurs sont des écologistes de bon sens hein, ». Les types, une fois sur deux, abattent un sanglier, l'autre fois leur frère, un jour, il s'est pas rasé. C'est tout sauf de l'écologie. Enfin, dans ce cas, si moi, j'éclate un moustique, je veux aussi être reconnu comme quelqu'un qui régule les populations. Anne Hidalgo, elle est candidate. L'autre jour, à la matinale d'Inter, elle a déclaré « D'ici la fin de l'année, on va mettre en place un programme ». Ah bah oui, mais normalement, dans le processus, ça, c'était le point numéro 1. Le point numéro 2, c'était « Je me présente ». Le programme, il s'impose de lui-même, non ? Faire enfin quelque chose. Agir pour la planète. Et là, vous les aurez, les votes des jeunes. Bande de tocards.
Merci, Tanguy Mazurou.
Et Tanguy, on se retrouve à Besançon le 21 octobre au Cursal.
Yes. Chez Flammarion, nouveau livre de Philippe Djian, Double Nelson. Je disais tout à l'heure, mais avec plaisir, c'est loin d'être un reproche, qu'il y avait un rythme dans votre écriture comme un rythme dans vos publications. Vous vous l'imposez. Ce rythme, vous avez tout à l'heure, vous m'avez dit, je ne note pas. Et vous avez donc, j'imagine, une position de travail ou un bureau dans lequel vous vous installez pour travailler. C'est aussi une question de tempo d'écrire un roman.
C'est un roman réussi, oui. Si un roman n'a pas de tempo, le roman, il n'est pas réussi.
Ça, c'est à l'intérieur. Roman. Et se dire tous les ans, je sors un roman, ça, c'est aussi une exigence que vous vous êtes donnée.
C'est une exigence financière, voyez-vous, parce que je vis dans un pays où il n'y a aucune aide pour les écrivains et que je ne pourrais pas me permettre de faire comme certains super bons Américains qui arrivent en vous disant « j'ai mis 7 ans à l'écrire ». Moi, je ne peux pas faire ça. Je suis obligé, tous les ans, de recommencer à travailler, de republier un livre. Et l'autre fois, je disais à Antoine Gallimard... t'as qu'à me payer le double, comme ça mes bouquins, je les ferai deux fois plus gros, il n'y a pas de problème, je mettrai un peu plus de décor et un peu plus... Donc cette obligation de gagner sa vie en écrivant fait que justement ça joue sur la langue et sur le style. Pourquoi ouais. J'ai plus envie d'écrire sur des décors, parce que ça m'a tellement ennuyé d'être obligé de décrire des choses qui ne m'amusaient pas. Maintenant je peux les enlever et les livres font plus que 250 pages. Mais si je vous faisais un vrai livre classique, tout ça, il en ferait 500.
Un écrivain, c'est un emploi comme un autre.
En tout cas, c'est honnête de le dire comme ça, parce que les auteurs ne parlent pas comme ça, oui.
Lesquels ? Bon, enfin bref, pardon.
Non, mais après, on peut imaginer qu'on consacre un peu plus de temps à un roman en espérant qu'il rencontre un franc succès qui fait que... Non, mais c'est pas simple, en fait.
Pas, tout à l'heure, à l'instant, vous me disiez, il y a des écrivains qui pensent pas comme ça. Moi, quand j'écris, je me dis pas, est-ce que ça va avoir du succès ? Est-ce que ça va marcher ?
Non, mais vous dites, j'écris parce qu'il faut que je j'en sorte un tous les ans.
Ouais. Et ça, c'est bien. Ça me gêne pas. Je sais pas ce que je pourrais faire si c'était la même taille de livre, ça voudrait dire que pendant 6 mois, je fais rien, je me tourne les pouces, j'ai pas envie.
Ou 2 ans, non, mais ça peut être.
Enfin, il y a pas long.
J'ai pas envie.
Non, mais on parle pas de. C'est rare aussi de parler en termes de poids. Ouais. J'ai envie de dire et nombre de pages, c'est rare.
J'aime bien lire les livres qui sont pas trop gros, parce que comme en général je lis en me couchant et que quand je m'endors, j'aime pas prendre le bouquin sur la gueule.
Il est pas trop lourd.
Je préfère qu'il soit pas trop lourd. C'est pour ça que j'arrivais pas à lire un truc super qu'on vient de m'acheter. C'est une bande dessinée du Mahabharata. Ce truc-là, si vous le prenez sur la figure, ça fait mal.
Ah bah, vous pouvez dormir très longtemps.
Donc, vous mettez un petit bouquin sympa, quand vous vous endormez, vous pouvez vous évader, j'espère, ou dormir d'une nuit, faire une nuit agréable.
Moi, là, je suis sur le catalogue publicitaire des 15 jours au champ. Je dors très, très bien. 3 pages.
Autre événement culturel, Leïla Kanopo-Dadi.
On va parler d'un jeune étudiant en criminologie en Angleterre dont le domicile recelait plus de 70 000 documents en relevant de l'idéologie nazie. Ce jeune homme a été condamné, mais condamné à quoi d'après vous? C'est assez surprenant.
S'instruire.
Oui, d'une certaine façon, en faisant quoi?
À visiter Auschwitz.
Non.
Non.
C'est une punition assez étonnante. À s'instruire, c'est-à-dire.
Il devait lire, je sais plus quoi, mais.
Il devait absolument. Il a été contraint à lire des livres et notamment Shakespeare. Voilà, là. Alors, il a pris quand même 2 ans de prison avec sursis. Et il devait lire des grands classiques de Shakespeare, de Jane Austen, de Dickens ou encore de Thomas Hardy. La prochaine audience, c'est le 4 janvier. Et le juge a décidé de tester à cette occasion ses lectures pour voir si vraiment il a fait le boulot.
Est-ce qu'il a compris? Philippe Jean, vous n'êtes pas d'accord avec ça?
Non. Moi, je trouve ça complètement dingue de penser que lire Shakespeare, c'est une punition.
Alors,
c'est comme ça.
Non, c'est une rééducation.
Oui, non, mais quelque part, c'est il espère que ça va pas. C'est pas ah chouette, il m'a donné une super lecture, je vais m'amuser pendant.
Non, ça va le sortir de son néo-nazisme.
Quelque part, quand même, je trouve que c'est une espèce de conception de ce que c'est que la joie, le plaisir de lire des choses bien. Ça la ramène à un truc. T'as pas été gentil, ou t'as fait ci et t'as fait ça, donc tu vas lire l'Excel-Tier, ça va te faire du bien.
Mais ils auraient dû faire ça, mais Hitler, en fait. Un petit Catherine Pancol et hop, c'était réglé.
Voilà, exactement.
Est-ce que la littérature, elle peut sauver, d'après vous? Est-ce que lire un bouquin, est-ce que ça s'est déjà présenté dans votre vie, vous a fait changer d'avis, vous a fait voir les choses autrement, et donc peut faire espérer évoluer?
Ouais, je sais pas si ça peut changer les vies. Moi, je sais qu'à un moment, j'étais en fac, j'étais à Vincennes et j'avais jamais lu Salinger. Et j'ai ouvert le bouquin, j'ai commencé à lire La Trappe-Cœur et je me suis barré. Et j'ai dit, je ne remettrai plus les pieds ici parce qu'ici, j'apprends rien. Alors que là, en quelques pages, j'ai appris ce que c'était que la littérature, ce que c'était qu'écrire pour, avec une certaine... je sais pas, de faire passer de l'émotion et tout ça. Moi, quand j'avais ce jeune garçon dans La Trappe-Cœur qui... a peur de traverser la rue, ça me touchait, ça me parlait et ça me faisait grandir. Et après, quand certains journalistes me demandaient pourquoi t'écris comme ça et tout ça, je disais parce que des gens comme Raymond Carver m'ont appris à traverser la rue. Qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire que quand on se nourrit bien au niveau simplement de la littérature, quand on se nourrit bien, on ne traverse pas la rue de la même manière que quelqu'un qui lit des conneries ou que quelqu'un qui lit pas du tout. Pourquoi? Parce que quand on a lu Raymond Carver, je pense qu'on n'est pas là à attendre le feu rouge, à regarder si le flic vous permet de passer. On va peut-être regarder les arbres en face ou une jeune femme qui passe, qui est assez jolie, ou je sais pas. On traverse la rue différemment. Donc ça change une vie, oui.
Ce samedi soir, peut-être que la vie de certains va changer. Sûrement même. À 20h40, sur France 2, en direct, des auteurs, compositeurs, interprètes vont se produire, proposer leur création. Pour l'instant, il y en a 19 qui sont sélectionnés. Les 10 premiers passeront ce samedi, les 9 autres samedi prochain. Public et juré pourront voter, et tout ça gratuitement, sur à la fois des SMS et Instagram. Et les parmis dans ce classement, contrairement à ce que j'ai pu dire il y a quelques jours, les 7 premiers restent dans l'histoire, et les 3 autres seront
abattus.
Éliminés. Mais d'ici là, ils participent à des masterclass avec Leïla.
On les accompagne
sur le
comme
canal 14 de la TNT.
Absolument, Culture tous les soirs à 20h. Hier, on était avec Boris Berman. Boris Berman, pour le représenter succinctement, c'est un parolier, même s'il n'aime pas dire qu'il est un parolier, mais plutôt un lyriciste. Ça entend ainsi la notion de musicalité. Il a écrit pour Gréco, Dalida, Christophe et aussi pour le grand Alain Bachung, bien entendu. Et alors, je lui ai demandé, écrire une chanson, c'est bien beau pour les autres, mais est-ce qu'il y a un moment décisif qu'il faut soigner en particulier?
J'ai toujours dit que quand on lit un livre, on a 50 pages, peut-être 30.
Pour embarquer le lecteur,
de continuer, c'est ça. Ouais. Au cinéma, on a 10 minutes.
Et en chanson, vous donnez combien de temps?
2 premières lignes.
Et vous considérez aussi qu'un bouquin, on doit lui laisser quoi, 50 pages? Combien de pages vous laissez, vous, un livre? Alors, comme c'est des petits livres.
Pour embarquer.
Ouais. Moi, je ne vais pas jusqu'à 50 pages de quelque chose qui m'ennuie. Hein. Ouais. Au bout de 10 pages, le bouquin, il est par terre ou il est passé par la fenêtre. Donc,
Ah, carrément.
Ah, ouais.
Et la première ligne d'une chanson.
C'est une grande violence. Hein.
Comme ça qui
et la première ligne d'une chanson est importante? J'abandonne.
Les deux premières.
J'abandonne sur une chaise.
Le journal du matin, les nouvelles sont mauvaises.
D'où qu'elles viennent. Hein, tout ça, il fallait attaquer comme ça pour comprendre.
Je sais pas, il n'y a pas de règle. Je me dis pas comment attaquer un truc.
On rentre dans l'histoire.
Est-ce que c'est tout de suite? Il y a un truc que j'ai écrit il n'y a pas longtemps qui a l'air de plaire à pas mal de gens qui s'appelait Prisonnière. Je ne sais pas, c'est un truc qui vient comme ça. Une femme qui est en train de danser avec un homme et qui dit de vous, je me sens prisonnière. Bah, ce n'est pas la première ligne. Sauf que c'est tout l'intérêt de ce texte, si jamais il y a un intérêt, c'est ça. C'est quelqu'un qui dit à quelqu'un d'autre, je suis ta prisonnière.
Ouais. Ce que disait Boris Bergman, c'est les deux premières phrases, ou alors la première phrase du refrain. Voilà, on peut éventuellement se rejouer là-dessus, ça peut sauver.
Le gimmick verbal.
Ça peut sauver. Alors forcément, quand on a Boris Bergman face à soi, on a envie de lui poser des questions sur les textes de Bachung, notamment à quoi ça sert la frite si t'as pas les moules, ou ça sert à quoi le cochonnet si t'as pas les boules. Forcément, avec Boris Bergman, ce sont des anecdotes.
Quand Alain allait aux toilettes, parce qu'il buvait beaucoup de bière, moi sur le papier, je mettais des conneries. Quelquefois. Et l'enregistrement, vous pourrez demander à Blanc Francard, qui est entre parenthèses Dominique Blanc Francard, grand ingénieur du son. Et pendant qu'il était aux toilettes, j'ai vite griffonné, parce qu'à l'époque, j'avais plus de machine à écrire, on l'avait volé, donc j'écrivais tout en écriture bâton. Et pendant qu'il était aux toilettes, j'ai mis à quoi sert la frite, t'as pas les boules, à quoi sert le cochonnet, t'as pas les boules. Et je me suis dit, quand il va arriver, devant le micro, il va se marrer, ça va couper le truc. Et ben, pas du tout. La version que vous avez sur le disque, c'est celle-là.
Ça tient à rien.
Ça tient à rien. Et ça peut durer des heures avec Boris Bergman, toutes ces anecdotes. Vous êtes aussi un peu comme ça, farceur.
Farceur ?
Ouais, dans les textes.
Je suis pas assez bon pour être farceur.
Si, mais vous avez
l'équipe. J'aime bien.
Vous êtes taquin.
Ouais, c'est ça.
Un bon petit.
Non, j'essaye de. Je fais partie d'une. On est presque 70 millions de Français. Je veux dire, je suis pas meilleur ni moins bon. Je fais mon boulot du mieux possible. Sauf que je veux pas que le monde me pèse plus qu'il me pèse. Et c'est pour ça que quelque part, je me fais un peu de. Farceur, j'en sais rien, mais mettre un petit peu de rabaisser le truc. Ouais. Quoi. On n'est pas des génies.
Mais des artistes, oui. Et en l'occurrence, ces artistes vous donnent rendez-vous samedi 20h40 sur France 2. Ils seront 10, il en restera 7. Ça dépend de vous. Et Leïla Kadour-Boudadi, vous la retrouvez ce soir à 20h.
Avec Féfé.
Très
sur
bien.
Sur Culture Box, France 4, le canal 14.
Ça s'appelle Double Nelson. C'est un bon livre qui vous assommera pas quand vous le lisez en dormant. Et d'ailleurs, on a du mal quand même à le lâcher, puis on a du mal à dormir. Et puis, il se lit avec une vivacité. Et j'imagine la vivacité avec laquelle vous l'avez écrit. Ou c'était plus
bien. Non, c'est plus difficile. Non, au contraire, c'est le labeur, pesanteur. C'est dur d'être léger.
En tout cas, on le ressent pas. Ça, c'est une réussite. Double Nelson chez Flammarion, Philippe Gian. Des excuses à présenter, Daniel Morin.
Désolé pour tous les couples qui, après la lecture de Double Nelson, voudraient construire une histoire qui commencerait par une baston. Alors, pour info, Morgane, quand elle m'a rencontré, m'a cassé un tibia. Elle m'a crevé un œil, brisé la nuque, rasé le crâne. Et vous avez raison, ça marche. Hein, je l'aime tellement. Oh oui, cogne-moi, Momo. Désolé pour tous ceux qui voulaient lire le livre de Philippe Gian de façon, allez, pépère, détendue. Eh ben non, vous l'avez entendu. À 11h25, il l'a dit. Pas de ponctuation, faites un effort, je veux que la lecture dérange. Voilà, les gars, faites gaffe à ce que vous faites. Je m'en fous du sens des mots, compris? Ok, vous allez en chier. Point d'exclamation, c'est tout ce que j'ai à dire. Désolé pour Morissette, on l'a compris, toutes les Morissettes, ce matin, malgré la chatoyance de votre état civil, vous n'apparaîtrez jamais, jamais, jamais dans les livres de Philippe Gian. Il veut pas. Désolé, enfin, pour Marie Laforêt, dont le talent a été souillé par Philippe Gian. La pauvre, elle reprend une chanson et bim, un écrivain parolier suit ce fil, la piétine, monde de merde. Alors en même temps, là, à l'écoute, je vous regarde, Philippe, et je vous comprends.
Merci, Philippe Gian, c'était
un plaisir.
Ouais, nous aussi, partagé, et pour une première, j'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres comme ça, en tout cas, dès que vous le souhaitez.
Une fois par an.
Quand il veut.
Bah voilà, une fois par an.
Quand vous voulez, parce qu'il y avait plein de choses encore à dire qu'on n'a pas eu le temps de faire, mais vous plongez-vous dans Double Nelson, chez Flammarion, signé Philippe Gian. Demain, Nicolas Briançon sera notre invité. Passez une bonne journée sur Inter. Voici les carnets de campagne de Philippe.